grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct et en podcast. Depuis que les premiers Australopithèques se sont mis debout, bien campés sur leurs deux jambes, ils en ont tiré bien évidemment des avantages, hein, comme le développement cérébral. 4 millions d'années après, nous payons un certain prix à la bipédie. Nos jambes, qui supportent notre poids, avec un impact sur notre colonne vertébrale, nos articulations, nos tendons. Prendre soin de ses jambes, c'est prendre soin de sa santé. Avec le retour des beaux jours, nous serons nombreux à arborer nos gambettes, mais pour certains d'entre nous, il ne sera pas facile de les exhiber au regard des autres, trop grosses ou semblables à des pattes de poulet, sans compter les varices et autres varicosités. Nous vous donnerons des pistes pour les embellir. Et puis nous verrons ce matin quelles sont les conséquences des jambes lourdes, quels sont les facteurs de l'insuffisance veineuse, comment limiter les risques, quel est le bon régime alimentaire, les plantes à privilégier, quelles sont les activités physiques idéales. Avec nous pour nous éclairer, le médecin vasculaire et phlébologue Ariel Toledano et Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, notre partenaire ce matin. Nous attendons toutes vos questions, vos témoignages sur la santé de vos jambes au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook, de grand bien vous fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et écrivain, il paraît que vous avez de belles jambes. C'est ce qu'on dit à Toulouse. Vous êtes l'auteur du blog Alors Voilà. Chaque semaine, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Oui, ce matin, on va parler papillomavirus, vaccination.
A tout à l'heure, Baptiste Beaulieu. Bienvenue dans Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Bonjour docteur Ariel Toledano.
Bonjour.
Vous êtes médecin vasculaire, phlébologue, vous avez notamment publié 30 jours pour avoir de belles jambes chez InPress et vous présidez le comité d'information sur la maladie veineuse. Bonjour Aline Perraudin.
Bonjour Ali.
Directrice de Santé Magazine, votre dossier du mois est consacré aux jambes en bonne santé. Alors docteur Ariel Toledano, bien souvent nous négligeons nos jambes, nous sommes souvent complexés par elles.
C'est vrai, puisque en tout cas c'est ce que je rencontre fréquemment dans ma patientèle. Ce sont des gens qui ont complexé. C'est vrai que si vous présentez les choses de cette manière, on a l'impression que c'est plus un problème esthétique. Or, c'est une vraie maladie qui touche quand même presque 20 millions de Français et Françaises. Donc, évidemment, plus de femmes que d'hommes, puisque la proportion, c'est une femme sur deux. Vous voyez que c'est quand même important. Et un homme sur quatre. Donc, c'est un problème évidemment esthétique. Mais
elles sont révélatrices, ces jambes, de notre état de santé.
Tout à fait. C'est-à-dire que quand on voit apparaître, évidemment, des stigmates d'une fragilité veineuse, c'est-à-dire des petites varicosités, des veines un peu dilatées. Puis le premier symptôme, en général, c'est l'apparition. Alors, vous avez dit que vous ne souffrez pas de jambes lourdes, mais en général, le symptôme le plus permanent que l'on entend fréquemment, c'est la sensation de jambes lourdes. Alors, c'est vrai que...
C'est un terme vague, ça veut dire quoi exactement?
Alors, c'est intéressant ce que vous posez comme question, parce qu'en fait, l'insuffisance veineuse, c'est-à-dire en fait la fragilité des veines, qui constitue en fait un mauvais retour du sang vers le cœur. Vous savez que les veines ont un rôle difficile, c'est celui de remonter le sang vers le cœur, donc doit lutter contre la pesanteur. Et quand les veines ne sont pas assez fonctionnelles, ne sont pas assez toniques, le sang ne remonte pas très bien. Il y a aussi des petites valvules qui empêchent le sang de redescendre une fois qu'il est remonté. Et donc, quand ces valvules ne fonctionnent plus, quand ces veines ne sont pas suffisamment toniques, l'insuffisance veineuse s'installe. Alors, c'est vrai que les gens disent les jambes lourdes, c'est assez vague. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la symptomatologie de l'insuffisance veineuse est très polymorphe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une symptomatologie qui est difficile à expliquer. C'est d'ailleurs, quand on a du mal à expliquer ce que l'on ressent, on sait que c'est probablement une insuffisance veineuse. Alors des gens vous diront, c'est les jambes lourdes, c'est peut-être parfois des petites crampes, c'est aussi des douleurs, des gens ont les jambes qui gonflent. C'est très vague, c'est-à-dire que les gens vraiment ont une information très... pas spécifique, et c'est ce qui permet en général de s'orienter vers l'insuffisance veineuse. Alors nous avons évidemment dans nos cabinets, les médecins vasculaires, les moyens de dépister cette insuffisance veineuse, c'est-à-dire en faisant un examen qu'on appelle l'échographie Doppler, qui est un examen
c'est quoi
qui
exactement
permet... Alors c'est un examen en fait, c'est une échographie avec un système qui permet d'évaluer le sens du flux sanguin, et une fois qu'on a fait cet examen, on peut dépister exactement quel est l'endroit où la veine ne fonctionne pas et traiter de manière parfaitement spécifique la zone qui ne fonctionne pas. Et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on fait des traitements parfaitement précis, ce qui n'était pas le cas il y a encore une trentaine d'années, où quand on avait un problème d'insuffisance veineuse, on retirait au patient les quatre veines qu'on appelle les quatre safens, ce qui est quelque chose d'inenvisageable aujourd'hui, où on traite spécifiquement la zone malade, ce qui est d'ailleurs plus intéressant et plus normal.
Aline Perraudin.
Oui, on n'opère pratiquement plus aujourd'hui, alors que on le faisait il y a encore quelques années, comme vous dites. Mais aujourd'hui, la chirurgie reste exceptionnelle.
On y reviendra tout à l'heure.
Notamment aux États-Unis, en Angleterre, on le fait quasiment plus.
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que quand vous dites ça, chirurgie, vous parlez de la chirurgie classique. Il y a des nouvelles méthodes qui sont à l'heure actuelle en cours, qu'on appelle la radiofréquence, le laser, qui se substituent progressivement à la chirurgie classique. Après, tout est une question d'indication, et ça, il faut faire confiance au médecin qui fera le diagnostic et vous donnera donc le traitement le plus adéquat selon votre pathologie.
Est-ce qu'on peut dire que les jambes sont les grandes oubliées de la santé ?
Alors, votre question est pertinente parce que c'est vrai que la phlébologie, c'est vraiment une vieille dénomination qu'on n'emploie plus aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez raison de me présenter comme phlébologue parce que tout le monde connaît phlébologue. Mais la dénomination actuelle, qui est une spécialité qui est maintenant reconnue, ça s'appelle la médecine vasculaire. Et la médecine vasculaire, c'est tout ce qui est lié au problème de la circulation, que ce soit les veines, les artères ou une circulation moins connue, c'est-à-dire la lymphe, tout le réseau lymphatique. Donc nous, on s'occupe de tout cela. Et après, il faut faire le tri entre ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Alors après, il faut bien comprendre une chose, vous avez raison de parler de ces nouvelles techniques qu'on appelle les techniques endoveineuses, mais il y a aussi une progression énorme sur le plan de la pharmacologie. Il y a des nouvelles molécules qui sont sorties ces 10 dernières années qui ont bouleversé la prise en charge d'une complication malheureusement redoutable dans cette maladie veineuse qui est la phlébite. Et donc, on en reparlera, mais c'est important de dire qu'il y a eu beaucoup de progrès et que la recherche sur le plan de ces traitements a permis de trouver des solutions très efficaces et simple à mettre en place, c'est très important.
Baptiste Beaulieu, est-ce que vous avez beaucoup de consultations concernant les jambes lourdes, les varices, etc. Est-ce que c'est un motif fréquent de consultation ?
Alors oui, c'est un motif fréquent, mais souvent il arrive au détour de l'examen clinique parce que c'est aussi un motif parfois de honte chez certaines, notamment certaines femmes, qui veulent pas trop montrer l'état de leurs jambes. Et quand on creuse un peu, elles disent bah oui, je souffre. Le soir, je rentre, j'ai les jambes très lourdes, alors que il y a quelques petites techniques qu'on peut utiliser qui permettent déjà d'alléger au quotidien cette lourdeur, cette pesanteur. Quoi.
Bonjour Marc Magro.
Oui.
Bienvenue, bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes l'auteur de Bon pied, bon œil, consacré aux expressions tirées du corps chez First. Beaucoup d'expressions dans la langue française jouent avec nos jambes. Avoir les jambes en coton, ça me fait une belle jambe.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un critère de santé, notamment, regardez le titre Bon pied, bon œil. Deux critères, l'œil et le pied, qui permettent d'apprécier finalement la qualité, la vigueur d'une personne souvent âgée, qu'on trouve plutôt verte pour son âge. Et donc, c'est une expression qui montre à la fois la lucidité, la vue, le pied, c'est donc la marche, l'équilibre. Mais c'est une expression qui est amusante puisque c'est une expression détournée au départ. C'était « ayez bon pied, bon œil ». C'était au XVIe siècle, c'était une expression qui disait « méfiez-vous d'une situation ou d'une personne. Il faut que vous soyez vigilant parce que vous allez peut-être devoir courir, vous y échapper et vous enfuir ». Et vous avez aussi comme ça d'autres expressions comme « avoir les chevilles qui gonflent ». Alors, vous parliez des insuffisances veineuses, mais c'est vrai que les motifs de consultation pour les gens qui se plaignent de chevilles qui gonflent, en général, c'est soit des insuffisances cardiaques, soit des insuffisances veineuses. Mais là, ce qui est amusant, c'est une expression du XXe siècle qui dit « avoir les chevilles qui gonflent », c'est avoir un peu la grosse tête. Et on se demande un petit peu comment cette expression peut expliquer finalement l'estime qu'on a de soi et qui entraîne un gonflement des chevilles. Alors comme ça, on a des sources du XVIIe siècle avec La Fontaine qui vous explique dans sa fable la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, elle a besoin d'enfler pour avoir l'impression d'être aussi valable que le bœuf. Et aussi au niveau des courtisans de Louis XIV, on retrouve dans ce XVIIe siècle l'idée d'avoir des chevilles enflées, notamment pour les courtisans du roi, lorsqu'ils voulaient se rapprocher de lui, ils espéraient avoir des talons hauts qui pouvait leur donner aussi des chevilles enflées. Mmh. Et en plus, vous aviez les cordonniers de l'époque qui devaient, pour augmenter la hauteur des talons, mettre des chevilles qui reliaient le talon à la chaussure. Donc, on est loin de la pathologie et pourtant, on a une image assez amusante de ces chevilles enflées.
Et Marc Magro, si je vous dis que tout ce que vous me dites là, ça me fait une belle jambe, vous allez mal le prendre.
Oui, mais j'ai pas la grosse tête.
Merci beaucoup, Marc Magro.
Merci
beaucoup. Allez, dans quelques instants, vous verrez pourquoi il est important de préserver son capital veineux. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexa Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par Claire Destacan. Redbone interprété Come and Get Your Love.
Quand on a un pied à New York et l'autre à Paris, c'est normal d'avoir les jambes lourdes en fin de journée.
Grand Bien Vous Fasse.
Les décalages horaires, le travail debout, ça fatigue les jambes.
Sur France Inter.
10h20, comment conserver des jambes en bonne santé? Avec nous le médecin vasculaire Ariel Toledano, Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, et le médecin de Grand Bien Vous Fasse, Baptiste Beaulieu.
Pendant 4 mois, elles disparaissent, on ne les voit pas. Au premier rayon de soleil du mois de mars, comme si elles s'étaient donné le mot, ou comme si elles avaient reçu un ordre de mobilisation, elles surgissent par dizaines dans les rues, en robe légère et talons hauts. Une belle jambe, c'est très beau, mais je ne suis pas ennemi des chevilles épaisses. Je peux même dire qu'elles m'attirent, car elles sont la promesse d'un évasement plus harmonieux en remontant le long de la jambe. Les jambes de femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie.
Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes de Truffaut. Docteur Ariel Toledano, prendre soin de ses jambes, c'est préserver son capital veineux. Pouvez-vous nous expliquer le rôle primordial des veines et la différence avec les artères ?
Alors, les veines ont un rôle difficile, c'est celui de remonter le sang vers le cœur. Les artères font le sens inverse, c'est-à-dire que ça part du cœur et ça irrigue en fait tous les organes. Donc un rôle plutôt de nutrition des artères, alors que celui des veines, c'est celui d'épurer un peu les toxines du corps. Ce qui est important, si on parle d'insuffisance veineuse, c'est d'expliquer aux gens qu'en fait, on a deux types de veines dans le corps. On a des veines profondes et des veines superficielles. Et la répartition est importante parce que les veines profondes constituent 90% du retour veineux, alors que les veines superficielles, toutes les veines que l'on voit à travers la peau dans tout le corps, constituent à peu près 10% du retour veineux. Et les veines qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les veines au niveau des jambes, les veines superficielles, c'est les veines qu'on appelle les veines saphènes. Il y a une grande veine saphène qui part de la face interne de la jambe et qui remonte vers au niveau de l'aine, au niveau de la région inguinale. Et puis une veine qu'on appelle la petite veine saphène qui remonte vers la face postérieure de la jambe et qui va se jeter dans le creux du genou, dans ce qu'on appelle le creux poplité. Ces deux veines, en général, ce sont ces deux veines qui sont touchées par l'insuffisance veineuse. Ce sont en général ces veines ou des collatérales de ces veines qui, en général, malheureusement, ne fonctionnent pas et entraînent l'apparition de varices, l'apparition de varicosités. Et donc, c'est important de les cibler, de savoir exactement quelle est la veine qui est touchée, de telle manière à apporter un traitement le plus adéquat. Ça, c'est important de l'expliquer parce que dans la majorité des cas, c'est important de le signaler, c'est que 95% des varices, quand on parle de varices, ces veines qui ne fonctionnent pas, il n'y a pas de raison évidente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathologie sous-jacente, alors qu'il y a ce qu'on appelle des varices qui sont secondaires, c'est-à-dire que c'est 5% des cas qui apparaissent après une phlébite, après un traumatisme, mais 95% sont dus en général à des facteurs d'environnement, c'est-à-dire à une hygiène de vie ou à une hérédité. Alors récemment, on a découvert qu'en fait, être grand de taille était un facteur propice à l'insuffisance veineuse, mais parmi les facteurs que l'on connaît depuis très longtemps, c'est évidemment la station debout prolongée, la station assise prolongée également, la chaleur, vivre dans un environnement où il fait très chaud. Évidemment, les personnes qui travaillent en avion, en altitude, on sait que, et justement, l'important développement du monde aérien a fait en sorte que on a eu beaucoup plus d'insuffisance veineuse. Il y avait une étude qui m'avait beaucoup interpellé, qui racontait qu'après 6500 heures de vol, on avait obligatoirement des problèmes veineux qui s'installaient. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de facteurs que l'on connaît aujourd'hui. Et en fonction de ces facteurs-là, en fonction de l'hygiène, en tout cas du mode de vie de chaque personne, on peut à ce moment-là apporter des réponses ciblées.
Revenons à nos jambes. À chaque pas, l'appui du pied sur le sol relance la circulation sanguine vers le haut, en direction du cœur.
Tout à fait. Alors c'est intéressant de signaler ça. C'est-à-dire que quand on a un mauvais retour veineux, il faut bien comprendre que si on est statique, on ne bouge pas. Il faut savoir que les muscles, quand vous appuyez, quand vous marchez, vous contractez certains muscles au niveau du mollet qui aident justement à la remontée du sang. Donc le fait d'être sédentaire est un facteur aggravant. Donc c'est pour ça qu'on dit aux gens « bougez, marchez ». Faites des efforts, soyez sportifs, c'est important. Alors après, on pourra expliquer quels sont les sports que l'on recommande quand on a une insuffisance veineuse. Il y a des sports que l'on recommande pas. C'est important de dire que tous les sports ne sont pas bons pour les veines. Mais voilà, il faut bouger, c'est important pour améliorer la circulation.
Baptiste Beaulieu.
Oui, ce que dit le docteur Toledano est très important parce que nous, c'est ce qu'on recommande à nos patients en cabinet de médecine générale. Quand ils vont prendre un vol long courrier et qu'on leur dit, vous allez rester assis pendant plusieurs heures, il faut faire fonctionner ce coussin veineux, ce lacis veineux qu'il y a sur la plante des pieds, qu'il y a au niveau des mollets. Il faut vous forcer toutes les heures à vous lever, puis faire le tour de la cabine, marcher un petit peu pour pas laisser ce sang stagner comme ça au niveau des membres inférieurs. C'est très important.
Tout à fait. Et ce qui est important de dire, parce que pour les avions, il y a cette notion qu'il faut bouger, mais il y a aussi une déshydratation qui est accentuée par la pressurisation de la cabine. Et cette déshydratation, il faut la compenser par, évidemment, le besoin de boire et de boire régulièrement, justement pour fluidifier un peu ce sang qui a tendance à stagner.
On nous demande par courriel, y a-t-il une alternative au port des bas de contention qui sont vraiment pénibles ?
Alors, c'est une très judicieuse question de cet internaute parce qu'en fait, on ne peut plus dire ça aujourd'hui, puisque des bas de contention aujourd'hui, on a vraiment toute forme de bas de contention ou de chaussettes de contention ou de collants avec des textures qui sont très agréables. Et donc, il suffit par contre d'aller dans des endroits parfaitement spécialisés, dans des pharmacies qui ont un agrément orthopédie et qui peuvent répondent de manière précise à la demande.
Comment fonctionnent ces bas de contention, justement?
Alors, en fait, c'est très simple. Quand on a une insuffisance veineuse, on a ce qu'on appelle une hyperpression veineuse au niveau de la cheville. Alors, peut-être l'histoire de la cheville qui gonfle, mais l'hyperpression de la veine dans la cheville est à l'origine des complications, d'ailleurs, sur le plan cutané, de toutes les complications que l'on redoute dans l'insuffisance veineuse. Et le bas de contention, alors, je vais rentrer dans une petite formulation. Aujourd'hui, on parle plus de contention, on dit compression, si vous regardez bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, la contention, c'est une forme passive de la compression, alors que la compression, c'est plutôt actif, c'est-à-dire que c'est une mobilisation qui se fait aussi bien au repos qu'à l'effort. Et ça agit en fait en contrebalançant l'effet de l'hyperpression veineuse.
Aline Perraudin.
C'est vrai que les bas de compression soulagent vraiment, mais c'est vrai aussi que quand on est une femme et qu'il fait 30 degrés l'été, c'est pas évident de les porter. Alors, moi, je dirais que l'alternative, en fait, c'est le sport, parce que le muscle, c'est le meilleur moyen d'exercer une compression sur les veines, et c'est de bouger encore et encore.
Alors, nous malmenons souvent nos veines, hein, vous avez évoqué les métiers à risque. Les jeans moulants, les talons trop hauts ou trop bas, les kilos superflus, ce sont des facteurs qui malmènent nos veines.
Alors tout à fait, vous avez raison. Donc tout ce qui peut avoir un effet compressif, mais cette fois non plus de manière organisée, dégradée, comme on peut le voir sur le bas de compression, donc des jeans qui sont trop serrés, des pantalons slim, comme on dit à l'heure actuelle. Évidemment, le surpoids, alors de manière assez étonnante, plus chez les femmes que chez les hommes, le surpoids accentue les problèmes veineux, et évidemment l'hygiène de vie, rester longtemps debout, longtemps assis. Donc là, et c'est vrai, il faut trouver des solutions alternatives. Alors bouger, mettre des bas de compression. Évidemment, je n'imposerai pas à mes patients de leur le port de bas de compression quand il fait 30 degrés dehors. Mais c'est vrai que vous avez raison, si on veut tonifier son retour veineux, il faut absolument avoir comme principe de bouger. Mais c'est valable évidemment pour tout le corps. Bouger, c'est quelque chose de fondamental pour la santé.
Et les variations hormonales, ça fragilise les veines également.
Alors vous avez raison de parler des variations hormonales, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'une femme sur deux avait un risque, en tout cas, d'avoir des problèmes veineux, et quasiment un homme sur quatre. Et la différence entre les hommes et les femmes, c'est à propos des hormones. Il faut savoir que chaque moment dans la vie d'une femme, sur le plan de son cycle hormonal, risque de dégrader l'état des veines. Ça commence par la puberté. Les premiers signes apparaissent chez une jeune fille qui vient d'être pubère. Vous avez aussi, évidemment, l'apparition des grossesses, la mise en route d'un traitement hormonal contraceptif. Chez les femmes, avec l'arrivée de la ménopause, il y a également une aggravation du terrain veineux, et puis aussi à cause du vieillissement des veines. Nos veines vieillissent. Il y avait une étude qui m'avait particulièrement marqué, c'est que 70% des gens de plus de 70 ans avaient des problèmes veineux, alors que à 20 ans, c'est 20%. Donc vous voyez que cette progression, l'âge est un facteur de risque, et il faut évidemment préserver ses veines, ne pas attendre qu'elles se dégradent pour en prendre soin.
Et puis rappelons que les femmes qui prennent la pilule œstroprogestative et qui fument endommagent encore plus leurs veines.
Vous avez parfaitement raison, et c'est vrai qu'on parle souvent du tabac pour les artères et très peu pour les veines, et c'est un facteur aussi aggravant de l'état des veines, avec en plus des risques de thrombose veineuse que peut occasionner le tabac.
Oui, je voudrais profiter de votre présence ici pour revenir sur les bas ou les chaussettes de compression, parce que nous, en tant que médecins de terrain, médecins généralistes, on a un arsenal thérapeutique contre l'insuffisance veineuse qui est très limité. Et c'est vrai que les chaussettes et les bas de compression sont à peu près les seuls médicaments, les seuls traitements, pardon. Et comment faut-il les mettre? Parce que on n'est jamais d'accord. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut les mettre le matin quand on est encore dans le lit, et du coup prendre la douche le soir et les garder toute la journée avant de poser le pied par terre?
C'est une très bonne question, parce que souvent vous avez des gens qui ne les mettent pas parce qu'ils ont à l'idée qu'en fait si on ne les a pas mis le matin avant de se lever, eh ben c'est pas efficace.
D'accord.
Alors moi j'insiste sur un point, moi je ne vois pas le bas de compression de cette manière, et j'aime en parler avec mes patients, et c'est intéressant de le signaler. D'abord, premièrement, ce qui est important quand on met un bas de compression, vous pouvez le mettre à n'importe quelle heure de la journée. On recommande évidemment avant de lever, pour une raison simple, c'est les gens qui ont les chevilles qui sont très gonflées, les jambes très enflées, il est plus simple de l'enfiler, déjà c'est un peu compliqué à l'enfiler, quand à la rigueur la jambe le matin, elle est pas trop enflée, que la journée n'a pas commencé, que les jambes ne se sont pas enflées. Donc c'est pour cette raison qu'on recommande avant de lever. Évidemment, les gens qui n'ont pas envie d'en mettre toute la journée, je peux le comprendre. Moi, je recommande, je le vois comme un soin. C'est-à-dire, en fait, vous rentrez après une journée difficile et que vous avez mal aux jambes, eh ben les mettre 3 heures pour préparer son repas le soir, c'est toujours pas mal. On peut donner aussi comme astuce aux gens qui mettent des bas de contention, de les mettre dans un endroit où il fait frais, même au frigidaire, parce que le fait d'appliquer un bas avec une texture qui est un peu froide a un effet. Il faut rappeler que le froid est vasoconstricteur, ça permet en fait d'éviter cette vasodilatation et améliore le retour veineux.
Bonjour Anne, bienvenue dans l'émission, vous appelez de La Rochelle.
Voilà, bonjour.
Bonjour, quelle est votre question, chère Anne?
Alors, mon problème, c'est que depuis 40 ans, j'ai les jambes qui gonflent dès que je mets le pied par terre le matin. Donc, elles sont devenues douloureuses à la suite des problèmes de lévothyrox il y a un an et demi. Mmh. Malheureusement, je viens de faire une deuxième cure à Rochefort. En phlébologie, bien sûr, donc on va voir l'effet, mais l'été dernier, il a fait très chaud et j'ai plusieurs varicosités qui ont éclaté. Bon, et j'hésite à mettre une robe ou une jupe parce que mes jambes sont des vrais poteaux. Voilà, il existe un remède.
Bah écoutez, d'abord, premièrement, la première des choses, est-ce que vous avez été voir un médecin vasculaire? Est-ce qu'on a fait un examen échodoppler? Est-ce qu'on a évalué votre état veineux? À quoi sont dus ces œdèmes? C'est ça ce qui est important chez vous. On vous a dit pourquoi vous avez des œdèmes? C'est à quoi? Quelle est la cause de vos œdèmes? Parce que la première des choses, c'est de trouver la cause. Pardon?
Il n'y avait rien à faire. J'ai revu un phlébologue en décembre dernier, rien du tout. Bas de contention.
J'ai compris, mais on ne sait pas pourquoi vous avez un œdème. C'est-à-dire qu'on n'a pas décelé une insuffisance veineuse, un mauvais retour veineux. Est-ce que c'est un lymphœdème? C'est un œdème lymphatique? Est-ce que c'est un œdème qui est dû à un excès de gras qu'on appelle un lipœdème? Est-ce qu'on a défini réellement l'origine de votre œdème?
Oui, mais... on l'a déterminé, mais...
Alors c'est quoi? Quel est le diagnostic, madame? Quel est le diagnostic? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Pardon?
Ouais.
Je n'ai pas sous les yeux. Bon, d'accord. Non, mais c'est juste que, vous comprenez, ce qui est important pour nous, c'est de dépister l'origine de votre œdème et de vous proposer un traitement, une prise en charge en fonction de l'origine de votre œdème. Vous donnez des recommandations génériques, ça ne va pas vous apporter grand-chose, on vous les a apportées. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi vous avez cet œdème et vous apporter un traitement parfaitement adapté à votre situation.
Posez la question la prochaine fois, Anne, à votre phlébologue ou médecin vasculaire, Aline Perraudin.
Outre le traitement qui évidemment dépend du diagnostic, est-ce que vous allez dans l'eau et notamment vous faites de l'aquagym parce que c'est quand même des activités qui détendent beaucoup et puis qui drainent?
Oui, ce qui me soulage, c'est de marcher dans l'eau. C'est voilà. Pas aller dans l'eau, c'est marcher dans l'eau.
Eh oui, dans l'eau.
Merci beaucoup, mais Anne.
Toute l'année, c'est difficile.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Anne, pour votre témoignage. Mode nous demande, ma fille de 15 ans souffre de jambes lourdes. Comment l'expliquer?
Comme on l'expliquait il y a quelques instants, en fait, l'apparition de la puberté, alors il faudrait voir si cette jeune fille a des troubles hormonaux, mais en tout cas, il y a peut-être une hérédité, probablement. Il y a une information qui est importante à transmettre. C'est souvent, moi, je soigne des femmes dont j'ai soigné la maman, j'ai soigné aussi la grand-mère. Le chiffre est très clair. Si on a un parent qui a des troubles veineux, on a 60% de risque d'avoir des problèmes veineux, et si on a les deux parents, on a 90% de risque. Donc à partir du moment où nos parents ont des problèmes, on est peut-être sensibilisé au problème et il faut peut-être prendre en charge cette situation.
Sylvie nous demande comment se fait-il que toutes mes veines fonctionnent, on l'a constaté par échodoppler, et pourtant j'ai de nombreuses varices. Pouvez-vous nous expliquer quand même à nouveau ce qu'est une varice?
Alors, je pense que cette femme voulait dire varicosité et non pas varice. Mmh. Varicosité, en fait, ce sont des petites veines, des petites vénules rouges et qui peuvent apparaître sur la peau, qui font en général entre 0,1 et 0,3 mm, parfois un peu plus, jusqu'à 0,5 mm. Mais ce ne sont pas des varices. Alors, dans la majorité des cas, ces petites varicosités ne sont pas alimentées par des varices, c'est-à-dire des veines plus importantes qui ne fonctionnent pas. Et donc, on peut faire, par exemple, chez ces femmes ou chez ces jeunes femmes, qui ont des petites varicosités, des échographies Doppler, et constater que toutes les veines fonctionnent bien, mais par contre, il y a ces petites varicosités. Alors, elles sont le reflet de quoi? Elles sont le reflet d'une autre anomalie qu'on appelle l'insuffisance microcirculatoire, la fragilité capillaire, ces petites veines qui claquent facilement et qu'il faut, à mon avis, traiter, même si aujourd'hui on considère que c'est de l'esthétique, parce que traiter ces petites varicosités qui claquent, ça permet d'éviter d'avoir des hématomes très facilement et ça permet aussi de traiter un problème qu'on appelle la rétention, qui est un problème qui est très peu abordé par les médecins, c'est-à-dire que la sensation de gonflement dans les jambes et la porosité des capillaires fait sortir l'eau de ces capillaires dans le tissu interstitiel et s'installe dans le tissu interstitiel et entraîne la sensation de gonflement permanent. Et il faut apporter des solutions à ces femmes.
Il est temps de retrouver la chronique, alors voilà, de notre médecin écrivain Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Oui, Ali, vous savez que j'ai mauvais caractère et ce matin, je voulais pousser un petit coup de gueule. Parce que l'autre jour, une jeune fille de 17 ans entre au cabinet médical et me dit « Bonjour, je voudrais savoir si le vaccin contre le papillomavirus est recommandé pour les jeunes lesbiennes. » Que répondre? Je ne sais pas. J'en suis resté à l'idée très floue que le papillomavirus, qui est responsable, entre autres, du cancer du col de l'utérus, s'attraperait essentiellement en passant des muqueuses masculines vers les muqueuses féminines. Alors oui, j'ai eu de formidables professeurs de médecine, des hommes et des femmes extraordinaires, mais le cas particulier des lesbiennes, on ne me l'a pas du tout appris à la faculté de médecine. Les études françaises sur le sujet sont inexistantes, presque autant que les lesbiennes invitées sur les plateaux télé pour causer de la PMA en ce moment, soit dit en passant. Les seules études que j'ai pu trouver sont américaines et elles sont assez rares. Rendons-nous compte quand même, les personnes trans, bi, lesbiennes, gays représentent 4 à 7% de la population et pourtant elles restent l'angle mort de nos facultés de médecine. Ce serait qu'une discrimination de plus si, en l'occurrence, l'angle mort n'était pas mortel. Parce qu'on ne nous l'enseigne pas, parce que la santé des minorités sexuelles comme les lesbiennes n'intéresse personne, parce que la médecine est excessivement normative, parce que nous avons peur de dire à nos patients « Je ne sais pas, madame, on ne me l'a pas appris ». Vous savez, il faut jamais penser que les médecins... Non, on a toujours très peur de dire « on ne sait pas ». Parce que tout ça, les femmes lesbiennes sont en moyenne 4 fois moins vaccinées contre le papillomavirus que les femmes hétérosexuelles. 4 fois moins. Aux USA, on estime que 35% des femmes lesbiennes ne se sont jamais vues proposer de frottis de dépistage parce que nous, médecins, croyons qu'elles en ont moins besoin que les femmes hétérosexuelles. Ce qui est faux, archi faux. N'imaginons pas que l'homophobie, la lesbophobie ou la transphobie se cantonnent à de pauvres types bas du front dans la rue qui violentent des personnes transgenres à la sortie du métro Place de la République comme la semaine dernière en criant à mort les gouines et les pédés. Le cancer du col de l'utérus, c'est le deuxième cancer féminin dans le monde, 274 000 décès en 2002. Combien de femmes lesbiennes mortes doucement, sans bruit, sans même savoir que la raison précise pour laquelle elles sont passées sous les radars diagnostiques est que notre système de santé est hétéronormatif. Combien de femmes?
La chronique de Baptiste Beaulieu. Tiens, le point de vue du médecin Ariel Toledano, il est hétéronormatif, notre système médical? Question piège.
Moi, j'aime beaucoup cette médecine à visage humain parce que quand je parle avec mes patientes, souvent, je fais un état des lieux complet et certaines patientes sont un peu étonnées de me voir aborder uniquement le problème, de manière générale, le problème de leur hérédité, de leur état général, alors qu'elles viennent simplement pour traiter une petite varicosité ou une varice. Mais je crois vraiment, comme vous, que évaluer l'état général d'un patient, s'interroger sur son mode de vie, passer du temps, l'écoute, tout ça, c'est fondamental. Cette médecine, je suis très heureux de vous entendre parler de médecine à visage humain, surtout aujourd'hui dans une médecine, c'est vrai, j'ai parlé de beaucoup de technologies, c'est vrai que si vous rentrez dans mon cabinet, vous allez voir des machines partout, des échographies, des Doppler, des lasers, mais malgré tout, on traite des humains et chaque personne est totalement singulière et prendre évidemment le contexte, le mode de vie de chaque personne, c'est apporter une solution la plus spécifique à chacun. Chaque patient est unique et c'est ce qui est fondamental. Moi, ce qui m'a encouragé à faire de la médecine, c'est cette vision très humaniste de la médecine que je tiens à rappeler dans tous mes écrits d'ailleurs.
Merci Baptiste Beaulieu. On peut retrouver toutes vos chroniques en vidéo sur le site de France Inter, sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et sur votre blog. Alors voilà, allez, nous attendons toutes vos questions sur les jambes en bonne santé, au 01 45 24 7000.
Yeah. Uh-huh.
suivent se ressemblent. Les vêtements sont une seule sur toi. T'as pas le droit de recommencer sans moi.
Hubert Lenoir interprété Recommencer.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h43, comment conserver des jambes en bonne santé avec le médecin vasculaire Ariel Toledano, Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, et notre médecin Baptiste Beaulieu. Bonjour docteur Luc Perrineau.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes médecin, vous avez créé le premier diplôme universitaire européen biologie de l'évolution et médecine, et vous avez publié chez First Darwin et les sciences de l'évolution pour les nuls. Alors, quand les premiers australopithèques se sont mis debout, ils en ont tiré des avantages, mais il y a eu un prix à payer à cette bipédie, Luc Perrineau.
Oui, bien sûr. Ça, les inconvénients persistent encore, mais la bipédie est quand même un grand avantage.
Mais quels sont les inconvénients de cette bipédie que nous payons encore aujourd'hui, en 2019?
Alors, les plus connus, c'est surtout les maladies de la colonne vertébrale, donc ce qu'on appelle les radiculalgies, dont la plus connue est la sciatique, mm-hmm. hein, puisque les disques sont un peu écrasés avec les années et le poids du corps. Donc ça, c'est les plus connus sur la colonne vertébrale. Et puis les maladies de l'axe de la colonne vertébrale, la syphose, l'hyperlordose, la scoliose, qui sont donc des conséquences partielles de la bipédie.
Alors, quel conseil nous donneriez-vous pour prendre soin de nos jambes, pour alléger le coût de cette bipédie?
Alors là, on a parlé de la colonne vertébrale, mais effectivement, c'est surtout, c'est aussi dans les jambes qu'il y a des conséquences de la bipédie, pour des raisons simplement physiques, mécaniques, puisque le sang qui doit remonter au niveau du cœur, donc par les veines, la pression au bas du corps est bien sûr plus élevée, et les veines ont de la difficulté à faire remonter le sang au niveau du cœur. Donc pour compenser ce poids, cette pression plus élevée en bas, et il y a à l'intérieur des veines des valvules qui empêchent que le sang reflue vers le bas, et autour des veines, les muscles permettent donc au sang de remonter. Hein, c'est purement mécanique. Mais pour des raisons diverses, certaines personnes ont moins de valvules. Et donc, c'est surtout plus souvent d'ailleurs des femmes que des hommes, et donc elles ont ce qu'on appelle une insuffisance veineuse profonde, avec, comme vous le savez, les jambes qui ont tendance à gonfler un peu.
Et voilà, quels seraient vos conseils, Luc Perrineau, pour justement alléger, comme je le disais, le poids de cette bipédie? Un conseil de médecin?
Alors, je vais vous donner 3 conseils de médecin pour régler ce problème de l'insuffisance veineuse au niveau des jambes. Premier, marcher. Deuxième, marcher. Troisième, marcher.
Merci beaucoup, voilà. Luc Perrineau. Merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Merci beaucoup. En tout cas, on vous reçoit dans quelques semaines à nouveau dans cette émission. Merci beaucoup d'être intervenu.
Donc, je vais examiner vos veines. pour voir s'il y a un caillot à l'intérieur.
C'est une simple échographie de la jambe qui permet de le détecter. Chez cette patiente, on découvre qu'un caillot de sang s'est formé dans une veine située derrière le genou.
Et quand j'appuie, la veine ne se comprime pas, elle est augmentée de diamètre parce qu'il y a du caillot à l'intérieur.
On l'appelle phlébite ou thrombose veineuse. Parfois, d'accord, les patients ne s'alarment pas aux premiers symptômes.
Ça m'a surpris parce que je n'avais pas mal. Un peu les jambes lourdes, mais je n'avais pas mal.
Le risque principal, c'est la migration de ce caillot qui se décroche, qui peut partir dans la circulation artérielle pulmonaire et donc donner l'embolie pulmonaire avec des conséquences cardio-pulmonaires qui peuvent être graves.
Extrait du JT de France 2 en 2015. Docteur Ariel Toledano, c'est quoi exactement la phlébite qu'on appelle également thrombose veineuse?
Alors la phlébite, c'est en fait un caillot qui se constitue dans une veine et qui bloque en fait la circulation. Alors il y a deux types de phlébite. Il y a une phlébite qu'on appelle la phlébite superficielle, qui touche le réseau superficiel. Et il y a la phlébite plus grave, qui est la phlébite profonde, qui touche le réseau veineux profond. Et on différencie, nous, dans le jargon médical, ce qu'on appelle les phlébites proximales et les phlébites distales, c'est-à-dire les phlébites qui sont au-dessus du genou et les phlébites qui sont en dessous du genou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, celles qui sont au-dessus du genou, c'est-à-dire au niveau de la cuisse et qui remontent parfois même plus haut dans ce qu'on appelle les veines iliaques, sont à fort risque embolygène, c'est-à-dire qu'elles peuvent remonter dans la circulation artérielle pulmonaire et entraîner cette complication que l'on redoute, qui est quand même de 15 000 cas en France, avec 15 000 l'embolie. Décès, ou 15 000 décès plutôt. On évalue à peu près à 150 000 cas de, parfois même 200 000 cas de thrombose veineuse en France, et il y a quand même 15 000 complications qui sont des complications fatales.
L'embolie pulmonaire.
Donc c'est important de faire le diagnostic, parce qu'en fait, pendant des années, on n'a pas fait le lien entre la thrombose veineuse et l'embolie pulmonaire. Aujourd'hui, nous savons que l'embolie pulmonaire est en fait à la base, à l'origine, est un problème d'une veine qui s'est bouchée dans la jambe, qui est passée. D'ailleurs, la personne dans le témoignage que nous avons entendu dit qu'elle n'avait pas mal. Donc, ça peut ne pas être douloureux, mais dans la majorité des cas, quand même, c'est extrêmement douloureux.
Quels sont les symptômes qui doivent alerter, docteur Toledano?
Alors, moi, je pense que, et c'est vrai qu'on dit la douleur. Parce que la douleur, en général, quand on a une phlébite, quand on a une veine qui est bouchée, alors évidemment, quand c'est une veine profonde, la douleur est intense. Il y a l'œdème, le gonflement du membre. Il y a également la rougeur. Toutes ces informations, et puis le fait qu'elle ne cède pas, la douleur. C'est-à-dire, vous pouvez vous reposer, vous pouvez être alité. La douleur est permanente, elle vous empêche de marcher. Et là, il faut quand même aller consulter. Alors, vous avez deux cas de figure. Parce que nous avons parlé de l'insuffisance veineuse avec des gens qui ont des fragilités au niveau des parois. Mais il y a aussi un problème au niveau du contenu du sang. C'est-à-dire que beaucoup de gens ce qu'on appelle une maladie qu'on appelle la thrombophilie, c'est-à-dire qu'ils ont un sang qui se coagule plus facilement. Ces gens-là savent qu'ils sont plus à risque de faire des thromboses veineuses. Elles le savent parce qu'elles ont fait des analyses de sang. Et donc, quand elles ont des symptômes qui peuvent évoquer une phlébite, eh ben, il faut aller consulter, faire cet examen, l'échographie Doppler, qui permet de dépister exactement l'endroit où la veine est bouchée et qu'on puisse à ce moment-là proposer. Alors aujourd'hui, le traitement, à part évidemment des embolies pulmonaires graves, le traitement d'une phlébite se fait à domicile. Nous avons la possibilité, avec des traitements parfaitement simples à juguler, il y a une nouvelle classe de médicaments qu'on appelle les AOD, les anticoagulants oraux directs. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de possibilités de traitement avec des traitements extrêmement différents, des héparines, des comprimés, et que en fait, comme c'est une pathologie qui est complexe, qui a plusieurs origines, le traitement sera adapté, encore une fois, parfaitement ciblé en fonction de chaque individu.
Quels sont les facteurs de risque? Est-ce que, par exemple, rester assis de longues heures, est-ce que le fait de croiser les jambes, comme nous le demande Marc, est-ce que croiser les jambes, est-ce que ça peut être un risque? Quels sont les facteurs de risque?
Je ne crois pas que le fait de croiser les jambes soit un facteur de risque de phlébite. Peut-être ça peut fragiliter, mais il ne faut pas inquiéter nos auditeurs.
De rester assis trop longtemps.
Voilà, ce qui est connu comme étant des facteurs de risque, c'est évidemment, alors nous avons parlé tout à l'heure de la contraception, quand on lit la notice, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant quand on prend un contraceptif et qu'on a des problèmes, c'est pour ça qu'il faut faire une analyse de sang, vérifier si on n'a pas d'anomalie de la coagulation, parce que, on le sait, certaines pilules peuvent entraîner deux fois ou trois fois ou quatre fois le risque risque de thrombose. La grossesse est un facteur aggravant. On a 5 fois plus de risque de faire une phlébite quand on est enceinte. Donc c'est une période qu'il faut surveiller. Il faut à ce moment-là prendre des précautions particulières. Certaines maladies, il faut savoir qu'en fait, alors je parlais tout à l'heure des troubles de la coagulation, mais certaines maladies comme par exemple le cancer, certains cancers peuvent être révélés par une phlébite. Donc il faut
par
faire...
exemple lesquels?
Oh, bah, beaucoup, le cancer du poumon, plusieurs cancers. Le tout, c'est bien de comprendre, c'est quand on fait une thrombose, il faut rechercher ce qu'on appelle une enquête étiologique, savoir pourquoi on a fait cette phlébite. Alors évidemment, et Dieu merci, dans la majorité des cas, c'est pas un cancer, mais il faut refaire cette enquête étiologique. Ça nécessite tout un bilan, toute une exploration pour trouver le traitement le plus adapté.
Baptiste Beaulieu.
Oui, une question qui peut intéresser concrètement les auditeurs, les auditrices, c'est qu'est-ce que vous pensez? C'est passionnant, j'adore vous écouter, j'apprends plein de choses, je me remémore plein de choses, mais qu'est-ce que vous pensez des spécialités qui sont vendues en pharmacie et qui proposent de drainer, fortifier les veines, genre les extraits de vigne rouge, tout ça, parce que ça coûte cher. Est-ce que le service médical rendu, est-ce que c'est efficace
pour et c'est déremboursé.
Et c'est pas remboursé, bien sûr.
Alors là vous faites allusion à tout ce qu'on retrouve en pharmacie, comme des compléments alimentaires, ou ce qu'on appelait les toniques veineux, ou les veinoactifs. Tout ça ne traite pas la phlébite. Hein. Ce sont
deux choses. Non, voilà. Bien sûr, je parlais de l'insuffisance veineuse. Voilà.
Donc là, quand on parle de l'insuffisance veineuse, ce sont en fait toutes ces molécules à base de plantes qui peuvent améliorer les symptômes, la sensation de lourdeur, les œdèmes. Moi, je pense que on a l'avantage en France d'avoir 85 principes actifs très étendus. C'est vrai qu'ils ont été déremboursés par la Sécurité sociale. La seule chose, déremboursement ne veut pas dire manque d'efficacité. La plupart des gens qui prenaient ces traitements, et il n'y a pas de risque majeur à ces traitements, il faut être clair. Ouais. Donc, c'est des médicaments à base d'extrait de pépins de raisin, d'amamélis, de vigne rouge, toutes ces plantes que l'on connaît. Vous savez, moi, j'ai fait une biographie d'un grand médecin du Moyen-Âge, et quand j'ai vu sa pharmacopée au XIIe siècle, il utilisait également ces... Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même du recul, et ça a toujours peut-être aidé certains symptômes. Ça ne peut pas faire de mal. Ouais. Si ça peut aider, bon, pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Après, évidemment, si ça nécessite un véritable traitement, il faut, à ce moment-là, le proposer à ces gens.
Monique nous dit, j'ai des œdèmes ponctuels aux chevilles. Le fait de mettre les jambes en hauteur et en profiter pour lire ou écouter France Inter est très efficace. Est-ce que mettre les jambes en hauteur, c'est utile ou pas?
Bah, évidemment, puisqu'en fait, on l'a expliqué, la bipédie, c'est parce qu'on est debout. Quand on surélève les jambes, on aide, on améliore le retour veineux. Donc, c'est toujours très agréable et ça aide.
Quelles sont les solutions pour lutter contre les jambes lourdes, Aline Perraudin? Quelles sont les solutions de base?
Alors là, on l'a vu, c'est marcher notamment dans l'eau, placer des gels frais sur ses jambes, ça peut soulager.
Quelle alimentation?
Et puis dans l'alimentation, en fait, c'est une alimentation équilibrée déjà qui va éviter le surpoids, ça c'est très important. Et puis une alimentation riche en fruits et légumes qui contiennent des antioxydants qui vont peut-être protéger, notamment qui contiennent des polyphénols qui vont protéger la paroi veineuse. Donc c'est très important d'avoir une alimentation suffisamment végétale. Et puis assez de protéines aussi, puisque parfois quand on gonfle et qu'on fait de la rétention d'eau, il y a une fuite des protéines. Donc c'est important de manger suffisamment protéiné, protéines animales ou végétales.
Et est-ce qu'on peut faire une cure d'aliments drainants? Je pense aux artichauts, aux asperges, aux brocolis, aux concombres, docteur Toledano?
Tout à fait, donc ça aide plutôt le versant œdème, le versant gonflement, ça c'est très intéressant. Mais il y a des fruits que j'aime beaucoup, moi, que je recommande à mes patientes, c'est les fruits rouges. Les fruits rouges ont vraiment toute une série, voilà, les framboises.
De polyphénols.
Voilà, exactement, donc c'est vraiment ça. N'hésitez pas à faire des smoothies, ça aide quand c'est les saisons.
Et il ne faut pas manger trop salé, ça c'est très important. On a tendance à manger trop salé.
Et pour fluidifier le sang, on privilégie quoi? L'ail, l'oignon
Alors... C'est important que vous précisiez ça parce que l'objectif quand on a une insuffisance veineuse, c'est pas de fluidifier le sang.
D'accord.
Là, quand on parle de fluidifier le sang, c'est plutôt chez les gens qui ont des problèmes d'artériopathie, des problèmes cardiaques avec des risques que le sang qu'il y ait une sorte de caillot qui se forme dans les artères ou qu'il y ait un retrécissement des artères. C'est une autre pathologie. C'est pour ça que c'est important de le préciser. Ce qu'on donne, tout ce que vous voyez dans les pharmacies, dans les parapharmacies, ce sont en fait des traitements qui visent à tonifier. Qui n'ont pas vraiment un effet de fluidification. Peut-être qu'on parle de rhéologie, c'est-à-dire c'est des facteurs qui améliorent la progression des globules rouges dans le sang, mais c'est pas vraiment une fluidification.
En préparant cette émission, j'ai vu que lutter contre la constipation était important, parce que ça gênait le retour veineux.
Alors c'est intéressant. peut-être, c'est peut-être à travers ça, mais moi je parle de facteurs associés. On s'est aperçu que les gens qui avaient des problèmes d'insuffisance veineuse avaient aussi des problèmes de constipation. C'est pour ça qu'on recommande justement d'avoir des alimentations très riches en fibres, justement parce que ça permettait aussi d'aider sur le plan de ce problème-là.
Il est important aussi de boire suffisamment, ça va permettre de lutter contre la constipation et aussi d'améliorer la rétention d'eau. C'est une idée reçue de penser que quand on souffre de rétention d'eau, on ne doit pas boire.
Et les sports que vous recommandez et ceux que vous ne recommandez pas en cas d'insuffisance veineuse?
Alors, les sports qu'on recommande, on l'a rappelé, c'est évidemment tout ce qui est dans l'eau, c'est-à-dire l'aquagym, l'aquabiking, la piscine. Moi, je vois quand je vois une femme qui va deux fois par semaine à la piscine, elle n'a pas les mêmes jambes qu'une femme qui n'y va pas du tout. Mmh. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on peut recommander de manière très simple. Alors après, il faut trouver une piscine, parce que c'est toujours le problème de trouver une piscine qui est suffisamment selon les critères de chacun, mais en tout cas c'est un sport que l'on peut recommander.
La marche,
éviter par contre, il faut bien préciser, tous les sports avec des à-coups violents. Le jogging n'est peut-être pas la meilleure solution quand on a des troubles veineux.
Et la muscu,
il faut faire attention. La muscu, il faut faire, les charges lourdes peuvent aussi aggraver un peu l'état des veines, donc il faut faire attention à ces sports-là.
Bonjour Daniel, bienvenue, vous appelez de Bretagne.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel.
Alors quelle est votre question?
Je voulais parler, est-ce que quelqu'un a déjà évoqué ce sujet, des impatiences dans les jambes.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est assis et au bout de 10 minutes, on est obligé de se lever tellement les jambes, il y a des à-coups comme ça, comme une espèce de décharge électrique qui fait qu'on est obligé de marcher. Et dès qu'on se rassoit, ça revient. Ouais. Donc j'appréhende d'aller au cinéma, j'appréhende de faire un long trajet en bus ou en voiture, et ça m'empêche beaucoup de m'endormir le soir dès que je suis allongée.
Et on appelle ça également le syndrome de la jambe sans repos, hein, Eric Toledano.
Ouais, exactement, oui, exactement. Le syndrome. Alors là, madame, ce n'est plus du tout un problème circulatoire, vous savez.
Ouais.
C'est pour cette raison qu'il faut, il y a des traitements parfaitement adaptés. C'est un problème plutôt neurologique, et donc on n'est vraiment pas dans le cadre d'une insuffisance veineuse. Et d'ailleurs, ne prenez aucun traitement, ça ne marche pas sur la circulation, parce que c'est absolument pas ça ce qui vous gêne. Ce qui vous gêne, vous, c'est le repos, c'est-à-dire la position assise, immobile, ou le fait d'être allongé. Donc vous avez besoin que vos membres soient en mouvement. Il y a des traitements, si vous êtes très gêné, il y a des traitements, hein, donc il faudrait en parler avec votre médecin.
Baptiste Beaulieu.
Oui, effectivement, le mieux c'est de vous rapprocher de votre médecin traitant qui vous proposera quelques traitements pour essayer peut-être de potentialiser un petit peu la dopamine. Et si ça marche pas, il vous orientera vers un spécialiste, un neurologue qui pourra vous aider.
Merci beaucoup Daniel de nous avoir appelé. Eric Toledano, vous avez Ariel Toledano. Eric, c'est évidemment
c'est un ami également.
C'est le réalisateur de film. Pardonnez-moi ce lapsus. Quels sont les conseils de base qu'on peut rappeler à nos auditeurs dans les 30 secondes hein, qui nous restent?
Dirais que les conseils de base, c'est que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de recommandations sur le plan de l'hygiène de vie, donc ça c'est quelque chose que l'on peut retrouver évidemment dans de très bons magazines, ça il y a aucun problème, mais rappelez aussi qu'il y a aussi des possibilités de traitement, que ce sont des traitements médicaux qu'on peut faire en cabinet avec des traitements qu'on appelle la sclérothérapie, avec les lasers qui peuvent vraiment améliorer l'état des veines sans aller à avoir une chirurgie. Et c'est vrai qu'on fait de moins en moins de la chirurgie aussi importante qu'on le faisait avant. Il y a des techniques de laser, de radiofréquence, les choses ont beaucoup évolué, il faut se rapprocher de son médecin généraliste, et s'il estime que c'est nécessaire, qu'il aille voir un médecin spécialisé.
Aline Perraudin.
Moi, je reste quand même sur l'hygiène de vie, le mouvement, et puis essayer de se dire que toutes les jambes sont belles, qu'elles soient fines, grosses, potelées. Il en faut pour tous les goûts.
Exactement. Baptiste Beaulieu, un dernier conseil.
Je suis d'accord avec Aline. Toutes les jambes sont belles.
Merci beaucoup, Aline Perraudin. On peut lire avec profit le dossier de Santé Magazine consacré aux jambes en bonne santé. Merci, docteur Ariel Toledano.
Merci.
Pardonnez-moi pour le Eric. Je crois qu'il y a le retour veineux vers le cerveau, là, le matin. Pas très bon, là. Et on peut lire avec profit 30 jours. Pour avoir de belles jambes, c'est publié chez InPress. Et merci à notre médecin maison, Baptiste Beaulieu. Demain, vous verrez comment se faire respecter en cas d'agression verbale. Nous recevrons l'enseignante Mathilde Levesque et notre psychiatre maison, Christophe André. Quelles sont vos stratégies de défense contre les agressions verbales et les insultes? 01 45 24 7000.